François Copé, œuvre posthume. Comme le jour tombait, un jour de janvier, couleur de cendre, j'avais posé ma plume et je m'étais assis au coin du feu. Dans la chambre, chauffée depuis de longues heures, où le nuage de fumée de mes cigarettes augmentait l'obscurité crépusculaire, je m'abandonnais tout en tisonnant à la sensation de fatigue heureuse qui suit une séance de bon travail. Un coup de sonnette me tira de ma rêverie. « Il y a là, » me dit la servante avec ce ton dédaigneux, que prennent involontairement les domestiques pour annoncer des visiteurs de mince apparence, « il y a là une dame en noir, accompagnée d'un petit garçon, qui désire parler à monsieur. » Je donnai l'ordre d'introduire et une minute après, je vis s'avancer dans la chambre et dans la pénombre un groupe lamentable. Elle devait être encore jeune, cette grande et lugubre veuve, car le chétif garçonnet, son fils évidemment, qui se serrait contre sa jupe noire, pouvait avoir 10 ans à peine. Mais tous deux, la mère et l'enfant, étaient si usés, si flétrie par la misère, que la femme semblait hors d'âge et l'enfant déjà vieux. Il s'approchait, marchant sur le profond tapis avec la lenteur timide et silencieuse des malheureux, glissant presque. Et quand ils s'arrêtèrent devant moi, dans le brouillard obscur de la chambre, pâle tout en noir, l'ample voile de la veuve les enveloppant d'une auréole de ténèbres, je frissonnais comme devant deux spectres. « À qui ai-je l'honneur ?» dis-je en indiquant un fauteuil. La pauvre femme s'assit, attira son petit garçon près d'elle et me répondit d'une voix basse et douce « Je suis veuve d'Annie Colmanet. On me dit, monsieur, que vous l'avez un peu connu autrefois, avant la guerre. Et je venais voir si vous voudriez bien, enfin, vous prier de souscrire à ses œuvres posthumes. Agricole Mallet, à ce nom, mon esprit fut traversé par un tourbillon de souvenirs. Je le revis, tel qu'il m'était apparu pour la première fois, au café de Lisbonne, à cette table des politiques, où le fameux Michel Polanceau, aujourd'hui député, chef de groupe et désigné pour président prochain au contact radical, prophétisait tous les soirs, à l'heure de l'absinthe, la chute des Bonaparte et l'imminente révolution. Agricole Mallet, parbleu, ce brun à tête de Romain, le plus violent et le plus exalté disciple de Polanceau, celui qui, à chaque motion incendiaire du tribun, secouait d'un geste héroïque sa lourde chevelure et faisait frissonner les verres et les dominos en frappant du poing sur la table de marbre. Un naïf et généreux cœur, ivre de mots sombres, ah oui, je me rappelais. Dès le 4 septembre, il avait pris la casquette noire et le Remington du franc-tireur s'était battu au Bourget comme enragé. Puis, à la fin du grand siège, il avait été gagné, lui comme tant d'autres, par cette fièvre obsidionale qui tourna en folie au 18 mars. Il avait fini par tomber, criblé de balles, un képi de commandant feutré sur la tête et une ceinture rouge autour du ventre. À 23 ans, malheureux enfant, sous la barricade du château d'eau. Agricole Mallet, oh oui, je l'avais un peu connu et je l'estimais pour la noble et dure existence qu'il menait alors, pour sa courageuse misère de poète. Mêlé par amour à 20 ans et Venant au cachet, vendant au cachet son grec et son latin, afin de nourrir sa femme et son nouveau-né. Ah, il avait donc laissé des œuvres posthumes. Mais parfaitement, je me souvenais, un soir il m'avait lu deux ou trois poèmes de vers élégiaques, mort jauniforme, avec une petite note tendre, toujours la même, comme celle du crapaud, mais sincère. Et comme je m'étais dit qu'il avait bien tort de préférer le bonnet rouge de Marianne au bonnet fleuri de Musset, qu'au fond, ce buveur de sang était un buveur de lait. En ce moment, il faisait presque nuit dans mon cabinet, la bonne apporta une lampe et je pus mieux voir la veuve du commandant fédéré. Elle était tragique. On avait froid rien qu'à regarder sa robe et son châle d'un noir sale, et son avant chapeau de crêpe d'où s'échappaient quelques mèches de cheveux blonds desséchés, semblait presser à maigrir l'ovale jadis pur de son triste visage, meurtri par la souffrance. Les grands yeux d'un bleu faïence étaient encore jolis et touchants, malgré la patte d'oie et la poche aux larmes. Vieille à 30 ans, Madame Mallet faisait le dos rond à la façon des femmes du peuple souvent battues. D'une main, elle maintenait sur son genou un paquet assez volumineux, enveloppé dans un journal, et de l'autre, avec un geste maternel, elle serrait contre elle son fils, enfant chlorotique, qui avait l'air d'avoir grandi en prison. Le détail le plus douloureux, c'était les gants de la pauvre vieille femme, d'horribles gants de castor noir blanchis aux coutures et crevés au bout des doigts. Saisi d'une vive pitié, je dis à Madame Marlay que je n'avais pas oublié son mari et je la priais de disposer de moi. Elle défit alors son paquet qui contenait une demi-douzaine de volumes à couverture rouge et elle m'en offrit un. Puisque vous avez la bonté de souscrire, me dit-elle, voilà votre exemplaire, monsieur. Je jetai un regard sur le titre imprimé en caractère d'un noir profond sur papier sang-de-bœuf. Il était ainsi libellé: Argicole Mallet, œuvre posthume, avec une préface de Michel Poulenceau, député. Ah, murmurai-je, Monsieur Poulenceau a fait une préface. Dans le groupe républicain du Café de Lisbonne, auquel je m'étais mêlé par hasard, moi, littérateur inoffensif, il m'avait toujours déplu, ce Palenceau, avec sa tête ronde aux dures moustaches de sous-officier méchant. Parmi cette jeunesse exaltée, lui seul était calme, mais d'un calme chargé de haine, un verre d'eau froide empoisonné. Excellent professeur de droit, il avait cependant été refusé à la soutenance de sa thèse de doctorat à cause des opinions socialistes qu'elle contenait et qu'il défendait énergiquement devant les maires. Très brave, il avait déjà déposé un homme, déjà tué un homme dans un duel au pistolet. Par son éloquence bilieuse, faite de logique et d'amertume, il s'imposait comme un chef futur à la table des politiques. Mais, tandis que ses têtes chaudes rêvaient de combat et de triomphe, lui ne méditait que vengeance. Il dressait d'avance les loisirs, liste de suspects. À la prochaine, il faudrait arrêter celui-ci, il faudrait passer celui-là en cour martiale. C'est un de ces révolutionnaires qui, dès que l'émeute éclate, marche sur la préfecture de police et signe d'abord les mandats d'arrestation, car l'habitude des sociétés secrètes donne ce goût dépravé. Et dans tout conspirateur, il y a du mouchard. Et comme Auriol Moulet, comme plusieurs autres camarades qui devaient tâter du bagne ou de l'exil, Polanco, lui aussi, s'était jeté dans la commune. Mais, heureux ou habile, il en était sorti à temps opportun, les mains pures de sang, un peu comme celle de Ponce Pilate. Enfin, nommé député, votant avec l'extrême opposition de la gauche, il avait pratiquement pris, ayant été, en somme, du mérite et beaucoup, une place très importante à la Chambre. Encore une crise ministérielle, et certainement, ce serait son tour de tenir la queue de la poêle. « Mais oui, » disait la veuve du fédéré de sa voix brisée qui se faisait mal entendre, « Monsieur Polanco a écrit la préface des poésies posthumes de mon mari, pauvre mari. Dame, c'était tout ce qu'il pouvait faire pour nous. Vous savez, il n'était pas bien avec les gens au pouvoir. » Cependant, j'avais remis à la pauvre femme le prix de ma souscription. Je n'osais faire plus. Après tout, elle ne mendiait pas. Puis, comme elle s'était brusquement levée, je la reconduisis en lui adressant quelques paroles de sympathie, et resté seul, je parcourus le petit livre. À coup sûr, les frères et amis qu'il aurait acheté de confiance, attiré par le nom de l'auteur et la maculature écarlate, ne l'aurait pas eu pour leur argent. Celui qui, dans la vie réelle, avait conduit au feu les hirsutes et farouches combattants de la commune, ne savait mener en imagination que les brebis de la déhoulière, et sauf quelques iambes déclamatoires, mais imité d'Auguste Barbier, la seule pièce vraiment mauvaise du volume, on ne trouvait là que des vers printaniers, jolis et frais, comme des pâquerettes, écrits par Gicole pour sa jeune femme, auprès du berceau de leur petit enfant. Ils allaient au cœur quand même, bien qu'un peu faiblots, ces poèmes inspirés par la lune de miel, où le nom de la bien-aimée reparaissait à chaque page, sonnait pour Cécile, à ma mère chère Cécile, et le poète y racontait ses uniques et purs amours, gentiment, simplement, avec une pointe de réalisme qui ne déplaisait pas. C'était sa première rencontre avec la jeune fille, dans une soirée bourgeoise, à Verdorjat. Et les regards furtivement échangés sous l'abat-jour pendant la partie de 21, et le premier baiser sur le front aux Jeux innocents. C'est ainsi l'humble roman. On le suivait, et ils se mariaient, les amoureux. Ils se mettaient en ménage, et ils s'aimaient, dans leur petit logement au cinquième, en haut de Montmartre, pareils à un couple de chardonnerets en cage chez une ouvrière qui ne veut pas toujours ce qu'il aura acheté de Marouron. Bien des fois, le poète l'avouait, on avait remplacé le dessert par un baiser. En lisant ces gracieuses confidences, on devinait qu'Agicole, Gricole irréconciliable, comme on disait toujours, avait dû souvent oublier les grands principes et laisser tout bêtement vivre. Certes, il avait été heureux au soir l'élection de Rochefort, mais moins que le jour où, se voyant à la tête de quelques économies, il avait pu offrir à sa Cécile l'armoire à glace, ambitieuse idée de toutes les grisettes. Et au retour des chasses aux violettes, qu'ils faisaient ensemble dans les bois de Vélizy, au premier printemps, le révolutionnaire ne se fâchait pas, j'en suis sûr, quand sa femme, épuisée de fatigue, se laissait tomber dans le grand fauteuil, n'ayant pas même la force de se lever pour serrer son modeste chapeau de paille en coiffant le buste de plâtre de la République, apporté de son roman sur la cheminée. Et cette aimable idylle avait fini en mélodrame sanglant. Et le doux jeune homme, père de famille avant d'être majeur, que ses commères du quartier regardaient avec un sourire attendri, quand, se promenant à côté de sa femme, une enfant presque, il poussait devant lui la petite voiture où dormait le bébé, ce naïf poète avait commandé une bande d'ivrognes incendiaires et s'était fait tuer pour une roque rouge. N'était-ce pas révoltant? Ô infamie, la bêtise des rages politiques, et les yeux chatouillés de larmes, le cœur battant trop fort, je fermais nerveusement le volume. Je revis alors la couverture rouge et le nom de Polanceau. Qu'avait-il pu dire, celui-là, le fanatique, à propos de ses chansons d'oiseaux parisien, mais qu'avait-il pu comprendre? Rien. Un coup d'œil rapide jeté sur la préface du préfuté radical m'en fournissait la preuve. Pas un cri jaillit du cœur, pas une ligne qui trembla d'émotion, mais des phrases ronflantes où vibraient comme un écho lointain des feu de peloton de la grande guerre civile. De nouvelles élections étaient proches, et cette tartine qui devait dû se produire tous les journaux populaires pour la réclame. De la peau de ce nom, le candidat s'était fait un tambour pour attirer la caisse devant son programme. Écœuré, je jetais le livre. D'ailleurs, l'heure du dîner était venue, et comme en ce temps-là, je rendais compte des premières représentations dans un journal, et versais tous les lundis dans la littéraire urne de prose dans le puissant fond du feuilleton, je fis ma toilette tout de suite après le café, et je me rendis à la Comédie Française où le reprenait je ne sais quelle comédie de Scribe. Et le premier personnage que j'aperçus de loin en rentrant au foyer du public, ce fut Michel Polanceau, debout au pied de la statue de Voltaire et entouré d'un groupe de gens communs, qu'à leurs habits de coupe provinciale on devinait députés. Il pérorait, mis correctement, rajeuni malgré ses tempes grisonnantes, transfiguré par le succès. Superbe, mon Dieu! Oui, superbe, l'ancien secrétaire du Café de Lisbonne, sectaire du Café de Lisbonne, qui tenait du sous-off par ses moustaches et du pion par ses lunettes. Il était devenu presque élégant, et à son commencement d'embonpoint majestueux et truité, pressentait le ministre de demain. Je ne pus que le reconnaître d'un coup d'œil. Le grêlement des sonnettes électriques annonçait le lever du rideau. Mais à peine fus-je installé dans mon fauteuil à l'orchestre, qu'un léger rire venant d'une baignoire voisine me fit tourner la tête. Et là, dans l'ombre cythéréenne de la loge, je distinguais encore une belle personne qui était bien jolie en 62 quand elle appartenait, s'il vous plaît, à un prince royal. Je distinguais l'auguste profil, l'austère profil du citoyen Polanceau, lequel gobait une cerise confite que lui offrait en riant la demoiselle. La toile se leva, mais ce soir-là, moins que jamais, je ne pus m'intéresser aux amours du jeune premier en sucre et de l'ingénu en robe rose. Je revoyais la table des politiques et ce pauvre écervelé d'agricole buvant l'éloquence à la glace du tribun d'estaminet. Et je songeais au coin sinistre du Père Lachaise, où pourrissent pêle-mêle les communards du dernier combat, et celui où Madame Maillet, en un maillon de deuil, va parfois déposer une maigre couronne. Je l'évoquais, surtout, dans ma pensée, la lamentable veuve, son paquet de volumes sous l'aisselle, traînant son maladif enfant par les bouts de Paris, en usant ses vieux gants de solliciteuse à tous les cordons de sonnette. Et je croyais encore l'entendre, en parlant de la préface de Polonceau aux poésies de son mari, me dire de sa voix de fantôme avec sa pitoyable candeur, c'est tout ce qu'il pouvait pour nous. En fait, le citoyen Polanceau a fait cette préface. Il se croit sans doute très généreux envers la mémoire de son ami. Pouah !